Et vous êtes à l'écoute de votre station numérique par excellence, fidèleauposte.com. Et voici maintenant votre émission Voyage-Voyage avec votre animateur André Bouchard. Bienvenue, chers internautes, sur votre réseau fidèleauposte.com pour votre émission Voyage-Voyage. Ici votre animateur André Bouchard. Et voici les sujets qui nous a fait plaisir de sélectionner pour aujourd'hui. Eh bien, d'abord Camping Québec et la saison estivale avec Simon Tessier, puis le temps des sucres en Mauricie avec Jean-Philippe Brière, ensuite tourisme et culture à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, avec Justine Lacharité, aussi sur deux roues avec Jean-Philippe Gay, passionné de cyclisme et auteur d'un livre intéressant, et qui nous parlera également de ses destinations. Et nous compléterons avec un aperçu des vins d'Oregon et Washington en compagnie de Raymond Nantel. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous souhaite bonne écoute, chers internautes, sur les ondes, sur votre poste fidèleauposte.com pour votre émission Voyage, Voyage. Alors, comme on le sait, le camping est de plus en plus populaire au Québec et bientôt, c'est la saison du camping proprement dite. Et pour nous parler justement de la saison également de Camping Québec, j'accueille avec plaisir le président-directeur général, Simon Tessier, qui va nous parler justement de quoi il s'agit et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour, Monsieur le président-Québec. Monsieur Tessier, quand on parle de Camping Québec, c'est quoi votre organisation?
Camping Québec, c'est l'association des exploitants de terrains de camping du Québec. On regroupe un peu plus de 800 terrains de camping membres qui viennent des secteurs privés, publics et municipaux. C'est la plus grosse association de terrains de camping en Amérique du Nord, donc c'est le plus gros regroupement. On représente près de 90% de l'offre en termes de sites, parce qu'on retrouve un peu plus de 1100 terrains de camping au Québec. Et notre devoir est de promouvoir l'industrie, la soutenir, la développer, et c'est ce qu'on s'efforce de faire depuis 1962.
Et voilà que bientôt c'est l'été, mais est-ce que le camping se poursuit plus loin que l'été maintenant?
Oui, maintenant, les changements climatiques avec lesquels on vit font que la saison automnale est beaucoup plus longue, et depuis quelques années déjà, on a une belle progression du côté du camping hivernal, principalement à cause des unités de prêt-à-camper dont certains campings se sont dotés. Donc, on s'est doté d'unités quatre saisons et ça permet de rouler l'entreprise un peu plus longtemps. Même si la rentabilité, bon, pour certains est plus difficile l'hiver, même si on réussit à faire nos frais, ben ça nous permet au moins de conserver des employés à l'année qui vont pouvoir être là pendant les quatre saisons.
Et on parle de camping éco-responsable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, c'est de faire attention à notre empreinte écologique, autant qu'on soit exploitant de terrain de camping. Donc, le développement durable, ça fait partie des pratiques de nos exploitants. Donc, c'est au cœur de toutes les décisions de l'entreprise. Bien sûr, On parle d'environnement, on parle de gestion des déchets, mais on parle aussi d'accessibilité, on parle de gestion des ressources humaines. Alors, le développement durable, ça englobe tout ça. Du côté éco-responsable, bien, on tente de diminuer notre empreinte écologique. Donc, on fait de l'éducation auprès des campeurs. Les campeurs offrent une belle collaboration aussi à ce niveau-là. Alors, quand il y a des investissements, bien, on fait des choix judicieux pour s'assurer que on fait, par exemple, de l'achat local, qu'on fait des meilleurs choix énergétiques. Alors, on accompagne nos entreprises à ce niveau-là et on a de belles histoires là qui pointent aux quatre coins de la province chaque année et c'est très inspirant.
Et vous parlez d'achat local de plus en plus. Alors, est-ce que vous pouvez élaborer davantage?
Bien, vous savez, le Québec regorge de ressources à travers les régions, donc des terrains de camping qui sont, par exemple, situés dans les cantons de l'Est, bien, vont privilégier l'approvisionnement locaux autant que faire se peut, bon, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu, mais on tente d'encourager ça le plus possible. Et les terrains de camping sont des entreprises de proximité, donc c'est des gens qui sont bien ancrés dans leur milieu, qui soutiennent leur milieu, travaille en concertation avec des partenaires économiques régionaux. Alors, c'est vraiment ancré dans nos pratiques et on espère que les campeurs ont ce souci-là aussi, c'est-à-dire de profiter de la région dans laquelle ils campent et d'exploiter au maximum les ressources disponibles dans ce territoire-là.
Et est-ce qu'on peut dire au moment où l'on se parle que les propriétaires de camping sont prêts à recevoir les nombreux campeurs cette année?
Ah, ils sont plus que prêts. Je vous dirais qu'ils ont commencé à travailler très tôt parce qu'on avait, bon, très peu de neige. Bon, la dernière tempête d'avril a mis peut-être certains chantiers en mode pause pour quelques jours, le temps que ça fonde. Mais quand on regarde la météo des prochains jours et semaines, c'est très encourageant. Puis nos équipes sont à pied d'œuvre pour travailler aux quatre coins de la province. Les lignes de téléphone ne dérougissent pas. Les gens prennent des réservations. Il y a aussi de plus en plus de réservations en ligne qui est possible de faire. Alors, les campings sont prêts à recevoir les campeurs pour l'été 2024.
J'avais un conseil à donner à ce moment-ci à nos campeurs avant la saison estivale. Qu'est-ce que vous diriez?
Bien, moi, je leur dirais pour cette année 2024, de découvrir au moins un nouveau terrain de camping. Parce que nos campeurs, là, ils ont des habitudes bien ancrées. On fait souvent le même trajet. On va à tel camping à tel mois. Mm-hmm. Puis on ne déroge pas beaucoup de notre trajet habituel parce que, bon, les enfants veulent absolument aller là. Mais je vous dirais, au moins d'en découvrir un, là, on n'est jamais allé. Il y a plus de 1129 terrains de camping au Québec, donc ça vaut la peine d'en découvrir de nouveau. Puis pourquoi pas initier une nouvelle personne à camper. Mm-hmm. Il y a des prêts à camper, il y a des campings qui offrent des sites à camper, puis il y a des campings qui offrent dans le même camping, non seulement des sites, mais des prêts à camper. Alors, si vous avez un ami qui n'a pas de roulotte, ben c'est le temps de l'amener avec vous aussi.
Alors, on prend ça en note, M. Tessier, pour plus d'informations.
Bien, pour plus d'informations, c'est le campingquebec.com, c'est la référence au Québec.
Alors, merci beaucoup, M. Tessier, de ces explications et ces renseignements pour inciter les campeurs de cette année à goûter davantage de la saison estivale. Merci beaucoup, à la prochaine.
Merci à vous, M. Bouchard.
Alors maintenant, je me transporte du côté de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. On sait que c'est le temps des sucres en Mauricie et ailleurs aussi. Et pour nous parler d'une cabane un peu spéciale, j'accueille avec plaisir Jean-Philippe Brière, qui est en fait l'instigateur de cette vraiment cabane spéciale, que j'ai le plaisir de saluer. Alors bonjour Jean-Philippe.
Bonjour, bonjour, merci de me recevoir.
Ça me fait plaisir. Monsieur Brière, c'est quoi ce genre de cabane?
Ben, tu sais, en fait, moi, j'ai rien inventé. J'ai juste décidé de, comment dire, de mixer deux traditions québécoises. La tradition de la cabane à sucre, mais y ajouter une petite touche de modernité en mixant avec une autre tradition qui est celle des casse-croûtes. Tu sais, c'est quand même très québécois, les casse-croûtes. C'est estival, ça rappelle l'arrivée du printemps, le début de l'été. Donc, moi, j'ai décidé de faire un casse-croûte de cabane à sucre. Donc, c'est un menu casse-croûte avec des poutines, des burgers, des hot-dogs, mais avec de l'érable dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est pas la cabane traditionnelle comme on la connaît. C'est un petit peu autre chose, mais quand même, en y ajoutant une touche d'érable, puis ça reste dans une cabane à sucre avec l'évaporateur au centre de la pièce pour respecter quand même les traditions de production du sirop.
Et qu'est-ce que vous incitez justement à mettre ça sur pied, un tel genre de cabane à sucre?
Jean Casse-Croûte.
Ben, tu sais, moi, en fait, je voulais juste pas être une autre cabane, premièrement. Je voulais avoir mon concept à moi. Et c'est surtout que ma cabane n'est pas énorme. Et puis, je voulais pas non plus qu'elle soit trop grande. Je voulais pas qu'on se sente dans une cafétéria. Je voulais que les gens entrent et se sentent dans une cabane à sucre, c'est-à-dire avec, bon, l'évaporateur tout près. Les gens qui viennent à la boutique peuvent voir, justement, l'espace d'évaporation. Et en ayant des places limitées comme ça, ben, je me disais, tu sais... en y allant avec une formule casse-croûte, sans réservation nécessairement, les gens peuvent arriver au moment où ils le souhaitent. S'ils veulent demeurer 15 minutes, reste 15 minutes. S'ils veulent passer l'après-midi ici, ils peuvent passer l'après-midi ici. Moi, l'idée, c'était que les gens puissent arriver au moment où ils le souhaitent et qu'ils ne se sentent pas brusqués de repartir. Puis c'est aussi que ce qu'on entend beaucoup des gens, c'est qu'il y en a pour tous les budgets. Tu sais, aller à la cabane à sucre, on le voit, bon, c'est de plus en plus cher. Des fois, les enfants veulent pas nécessairement manger des repas de cabane, mais ici, étant donné que c'est un menu à la carte, eh bien, on s'adapte à tous les goûts, à tous les budgets. Quelqu'un qui veut juste prendre une soupe au pois s'arrête pour prendre une soupe au pois, c'est possible de le faire chez nous. Et puis, évidemment, avec notre menu un petit peu différent aussi, c'est possible de sortir des sentiers battus.
Et pourquoi à Mont-Carmel?
Ben, en fait, moi, j'ai grandi ici, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. J'ai passé une bonne partie de ma vie. J'ai quitté pendant un instant pour faire autre chose dans la vie. J'ai été dans le domaine des communications pendant quelques années. Puis, je me disais, une cabane à sucre, ce serait un projet de retraite. C'est toujours quelque chose que j'avais eu en tête. Puis, finalement, ben, l'appel était trop grand pour attendre à la retraite. Donc, j'ai devancé ça un petit peu.
On voit ça parce que c'est assez spécial quand même. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de manger ici à la cabane à sucre?
Ben, moi, je mets vraiment l'accent sur l'aspect production. Tu sais, comme je vous dis, l'évaporateur est au centre de la pièce. Donc, ce qui est le fun, c'est que les gens peuvent venir voir le bouillage, poser des questions sur le processus de fabrication du sirop, que ce soit... de l'osmose inversée jusqu'à vraiment la transformation dans l'évaporateur. Donc, c'est possible d'en apprendre plus. T'sais, on a l'impression qu'on connaît tout du sirop d'érable, mais je me rends compte que même nous, les Québécois, on en a à apprendre. Donc c'est ça. J'aime ça, en apprendre aux gens sur notre métier, sur notre production.
Et le côté tubulure, est-ce qu'il y en a à ce sujet-là? Parce que c'est artisanal.
J'ai pas compris, excusez-moi.
Concernant la tubulure, qu'est-ce qu'il y en a à ce sujet-là?
En fait, moi, oui, je fonctionne sur tubulure depuis quelques années pour plusieurs raisons. D'abord, ça augmente un petit peu la production. Et puis, c'est aussi que ça facilite la récolte. Parce qu'évidemment, moi, en ce moment, j'ai 4000 en taille. Donc, ça ferait 4000 chaudières à ramasser à chaque jour. Avec la tubulure, c'est plus de travail en amont. Mais pendant la saison, évidemment, on est capable de ramener toute l'eau à un seul et même point. Puis... éviter un petit peu de ramassage et de perte de...
Est-ce qu'on peut dire qu'on a redécouvert en quelque sorte la cabane à sucre au Québec?
Redécouvert, je sais pas, mais je pense qu'on est en train de d'y amener un petit peu plus de technologie. Tu sais, dans la cabane à sucre, on est en train de raffiner un peu la production. C'est resté artisanal, c'est resté folklorique longtemps, mais tu sais, tout en respectant, comme je le disais, les traditions, je pense que on peut quand même y apporter une touche de modernité, autant dans l'approche pour l'offre sur place que dans l'aspect production.
Et quelle est l'invitation que vous avez à faire à nos auditeurs ou internautes pour les convaincre justement à visiter les cabanes à sucre du Québec, dont la vôtre, évidemment?
C'est une des plus grandes traditions québécoises depuis quoi? Depuis 200 ans, certainement. Ça nous rappelle que le printemps est là, le printemps existe encore, l'été arrive. Donc, oui, on vous invite à visiter une cabane à sucre, que ce soit la mienne ou que ce soit n'importe quelle autre. L'important, c'est de garder la tradition vivante et puis de s'adapter aux nouvelles réalités.
Et pas plus d'informations?
Nous, on fonctionne beaucoup par Facebook. Donc, sur notre page Facebook, l'Érablière Artisan Séricole. Vous pouvez inscrire aussi directement sur Internet, érablière.com, et ça va vous ramener à notre page Facebook.
Alors, merci beaucoup, Jean-Philippe Brière, pour nous parler de ce temps des sucres en Mauricie, dont cette belle cabane artisanale vraiment spéciale. Merci, à la prochaine.
Merci à vous. On a eu une grosse saison en plus de production, donc on est très heureux.
L'amphithéâtre Cogeco présente de beaux spectacles de toutes sortes et également son grand hommage à chaque année. Et pour nous parler justement de cette belle organisation artistique et touristique, j'accueille avec plaisir Justine Lacharité, qui est la porte-parole également, directrice des communications et du marketing, et que j'ai le plaisir de saluer. Bonjour Justine.
Bonjour.
Justine, comment ça tourne à l'amphithéâtre Cogeco présentement?
Bien, ça tourne super bien. La semaine dernière, on a eu la chance d'annoncer en conférence de presse le titre officiel du spectacle, la série Hommage de cette année, qui rendra bien hommage à RBO, Rock et Belles Oreilles. Donc, le spectacle va s'appeler The Cirque. The Cirque, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de RBO, bien, c'est un rappel un terme récurrent là qu'on pouvait entendre au niveau des albums, que ce soit au niveau de tunes, de spectacles. Il y a certaines chansons aussi qui ont été inspirées de ça, donc on s'en est inspiré pour le nom du spectacle. On a aussi eu la chance là, de présenter l'équipe de création derrière le spectacle.
Oui, est-ce que vous pourriez en parler quelque peu, en effet?
Oui, donc en fait, on a annoncé que Jean-Guy Legault allait être le metteur en scène cette année. Jean-Guy a travaillé les 5 premières éditions de la série Hommage ici à l'amphithéâtre. Donc, c'est un retour pour lui là, à Trois-Rivières. On a aussi annoncé au niveau de la direction de création, Émilie Grenon et Miro Glou, qui elle aussi a travaillé sur certains spectacles à l'amphithéâtre. Donc, c'est un beau retour pour eux dans nos établissements pour cet été.
Est-ce que les artistes ont été dévoilés?
Au niveau des artistes, on est encore en surprise pour ça. Donc, ça va venir un peu plus tard, là, quand justement, il va arriver à l'amphithéâtre vers la fin du mois de juin. Par contre, on a annoncé là, qu'au niveau de la direction musicale, ça serait Alex McMahon qui s'en occupera. Donc, Alex a travaillé avec plusieurs artistes au Québec connus, tels que Daniel Bélanger ou encore Ariane Moffat. Donc, il est très réputé et ça va être une super belle collaboration avec lui.
Et ça, il y a une expression un peu spéciale, abracadabrou, quelque chose comme ça, là.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette expression-là?
Bien, on sait, hein, l'univers de Rock et Belles Oreilles, c'est assez éclaté. Puis abracadabrou, c'était une de leurs expressions, là, qu'ils disaient beaucoup dans leurs sketchs. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de reprendre. Puis c'est un peu ça aussi, hein, l'univers du spectacle va se baser non seulement sur les personnages, mais on va beaucoup l'adapter aussi à la réalité d'aujourd'hui. Donc, ça va être un beau mélange entre, justement, l'univers du cirque puis l'univers de RBO, mais aux saveurs actuelles, là, pour que ça touche, justement, l'ensemble des générations.
Je sais que le spectacle RBO est très, hommage à RBO est très attendu, mais entre-temps, vous chômez pas, comme on dirait. Alors, qu'est-ce que vous présentez entre-temps?
Ben oui, ben en fait, notre saison estivale va débuter très bientôt. Donc, dans nos premiers spectacles qu'on va recevoir à l'amphithéâtre, on a Révolution qui va être là pour 2 soirées. On a Renaud aussi qui arrive de l'Europe pour venir nous visiter. On a le groupe Styx. On va avoir Roxane Bruno. Donc, on va avoir vraiment une belle variété de spectacles là, à venir à l'amphithéâtre. Ça va être super intéressant d'avoir autant des artistes de chez nous que des artistes de l'international qui viennent nous visiter à Trois-Rivières.
Est-ce qu'on peut dire comme ça, de toute façon, que cet arrondissement, ou du moins cet endroit, est un endroit vraiment à la fois culturel et touristique?
Bien, absolument. Je pense que l'amphithéâtre, elle apporte vraiment un beau rayonnement à la ville. Puis son emplacement, bien, nécessairement aide, bien, pas aide, je dirais, mais plutôt amène cette belle diversité-là. Puis elle apporte aussi un côté super spécial aux soirées, là, non nécessairement de venir voir les shows, mais aussi de profiter de la vue, là, accompagnée de famille ou amis.
Vous avez une invitation, Justine, à faire à nos internautes ou auditeurs de radio pour les convaincre, justement, à participer aux différentes activités, aux spectacles, qu'est-ce que vous diriez?
Bien, je dirais que l'amphithéâtre, c'est vraiment un lieu magique. C'est un lieu qui est qu'on a spécialement à Trois-Rivières et qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Donc, pour l'ambiance qu'on y retrouve, pour justement à l'entrée du site, il est possible pour les gens de consommer un verre ou même de consommer de la nourriture. Donc, d'arriver le plus tôt possible pour profiter de l'espace avant le spectacle.
Est-ce que les billets sont disponibles déjà?
Absolument. Donc, ils sont disponibles sur le site de l'amphithéâtrecogeco.com.
Alors, merci beaucoup, Justine Lacharité, pour tous ces bons renseignements concernant ce bel endroit trifluvien, l'amphithéâtre Cogeco. À la prochaine.
Merci.
Au revoir. Eh bien, c'est un grand plaisir maintenant d'interroger un passionné du cyclisme, en l'occurrence Jean-Philippe Gué, qui est en fait à la fois auteur d'un bel ouvrage sur deux roues, qui va nous parler de sa passion de ce magnifique sport, alors que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour Jean-Philippe Gay.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec plaisir. Monsieur Gay, quand on parle de cyclisme, qu'est-ce qui vous a amené justement à être un passionné de ce sport?
Oui, bien en fond, tout a commencé il y a quelques années. J'habite à Montréal, puis il y avait beaucoup de trafic pour me rendre à mon emploi, donc à mon travail. J'ai commencé à me rendre à vélo. Donc, au lieu de prendre 45 minutes en auto, ça me prenait 20 minutes à vélo. Donc, j'ai commencé à faire tous mes déplacements à Montréal à vélo. Puis, c'est ainsi que j'ai attrapé la figure du vélo.
Justement, c'est un sport intéressant, du moins une activité estivale intéressante, ce sport. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, oui. Bien, dans le fond, c'est vraiment un sport. Ça peut être un sport, une activité physique, ça peut être un moyen de voyager. Ce qui est le fun du vélo, c'est que c'est autant un moyen de transport qu'une pratique sportive, qu'un mode de vie pour certains.
Est-ce que ça a pris beaucoup d'ampleur, selon vous?
On a vu avec la pandémie, de plus en plus de gens se mettre au vélo. Je sais aussi que chaque année, les compteurs, le long des pistes cyclables, il y a des bornes qui calculent le nombre de cyclistes qui passent. Et chaque année, on voit une augmentation. Une augmentation du trafic sur les pistes cyclables, donc on peut dire que oui, c'est en pleine croissance.
D'ailleurs, avec les villes, on peut dire que de plus en plus des municipalités s'intéressent au vélo également.
Oui, totalement, c'est un vecteur économique pour plusieurs. Puis dans mon plus récent livre, Pédaler, justement, j'ai fait un total d'environ une dizaine de destinations au Québec. Puis quand on pense à l'île d'Orléans, au parc La Gatineau, que ce soit en Montérégie, sur la rive sud de Montréal, ou même dans le bout de Trois-Rivières, le parc de la Mauricie, le parc national de la Mauricie, c'est tout des vecteurs économiques. Le vélo apporte énormément de gens. Maintenant, il y a des cafés, il y a des hôtels qui sont destinés aux cyclistes, justement, et à la pratique.
Et voilà que vous avez commis, justement, vous êtes écrivain également, vous avez écrit un livre, alors... C'est quoi ce livre et pourquoi avoir écrit un tel livre?
Oui, bien, à la base, j'ai écrit le livre Pédaler parce que j'avais le goût de partager ma passion, comme je le faisais précédemment sur mon blog sur deuxroues.org. Puis quand j'ai écrit Pédaler, ce que je voulais faire, c'est écrire le livre que j'aurais aimé lire. Parce que présentement, sur le marché, je ne trouvais pas de livre qui était à propos de la passion, qui s'adressait autant aux débutants qu'aux vétérans. Je ne trouvais pas non plus de livre qui était 100% québécois. Donc, il parlait aux Québécois de la façon dont ils peuvent pratiquer. Souvent, les livres nous venaient d'Europe, c'était des destinations européennes, alors que là, je me suis assuré que c'était des destinations qui étaient accessibles pour la plupart des gens, que c'était basé sur notre réalité au Québec.
Et de quoi traitez-vous également dans ce livre?
Ça commence un peu avec la passion du vélo. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on développe cette piqûre-là pour le cyclisme? Après ça, je parle de bien choisir son vélo, la réglementation au Québec. Et ensuite, je vais avec des trucs et astuces et je termine avec des destinations, donc des lieux où les gens devraient aller pédaler au moins une fois, que ce soit pour la beauté, pour le défi ou encore pour vivre une autre façon de voyager.
On remarque qu'il y a plus en plus de vélos sur la route, des cyclistes, en famille également, j'ai remarqué depuis quelque temps. Est-ce qu'on peut dire que la famille s'intéresse davantage à ce sport?
Il y a de plus en plus d'options pour transformer un vélo d'adulte en tandem avec des enfants, que ce soit, par exemple, une girafe, donc accrocher le vélo, que ce soit une remorque, que ce soit... Donc, le vélo, c'est beaucoup démocratisé pour les familles. Moi, personnellement, depuis que mon fils a 2 ans, on fait du vélo camping ensemble. Donc, quand il était plus petit, c'était dans une remorque. Aujourd'hui, je transforme le vélo en tandem, puis on part tous les deux, puis on a sur mon vélo tout notre équipement pour 2 jours de camping. Donc, aujourd'hui, c'est de plus en plus faisable de voyager en famille à vélo ou de simplement... être capable de pouvoir se déplacer à vélo tout en famille.
Avant de passer à la deuxième partie, est-ce qu'on peut dire qu'il faut être en pleine forme pour faire du vélo?
Pas nécessairement. faut être en pleine forme pour peut-être aller à la vitesse des pros, mais faut pas nécessairement être en pleine forme pour pédaler. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour pédaler, il n'y a pas de forme physique, à moins qu'on ait une restriction du médecin. Puis en plus, aujourd'hui, il y a des vélos électriques qui peuvent aider à continuer de pédaler plus longtemps ou se mettre au vélo. On voit de plus en plus de cyclistes qui commencent grâce au vélo électrique une pratique, puis qui transfèrent après ça vers le vélo conventionnel, ou des gens qui ont un déclin dans leur forme physique qui décident de passer du vélo mécanique au vélo électrique. C'est deux choses qui sont très faisables.
Avez-vous un conseil à donner à nos auditeurs ou internautes? Et pour plus d'informations concernant votre livre, qu'est-ce qu'on doit faire?
Oui, pour plus d'informations sur mon livre, n'hésitez surtout pas à aller à voir votre libraire. Je crois que les libraires locaux ont tous accès à commander les copies. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site web, surdeuxroues.org. J'ai un article qui est sorti à propos justement du livre qui explique exactement c'est quoi le livre, qui décrit la table des matières. Donc, si vous avez des hésitations avant de vous procurer le livre, n'hésitez pas à vous rendre. Puis, ça explique l'ouvrage et pourquoi j'ai décidé de faire ça.
Alors, Jean-Philippe Guay, merci pour cette première partie. Et puis, pédaler, certainement un bel ouvrage. Et on va s'arrêter quelques instants pour reprendre sur les destinations proprement dites. Suivant cette entrevue en compagnie de Jean-Philippe Gay, qui est un grand écrivain de cyclisme, si l'on peut dire, qui a écrit « Pédaler », qui va nous parler de destination cette fois-ci, alors que j'ai le plaisir de saluer à nouveau. Alors, rebonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Jean-Philippe, quand on parle de destination, je pense que vous êtes un passionné de voyage. Alors, quels sont les voyages que vous avez faits?
Oui, il y a plusieurs types de voyages qu'on peut faire, je crois, à vélo. Il y a d'abord les voyages où on va à l'étranger, donc on prend l'avion avec son vélo, ou on loue un vélo sur place et on découvre le local, mais il y a aussi toute la vague du micro-tourisme. Ça, c'est, dans le fond, le fait de voyager à l'intérieur de sa province ou même de sa région administrative. Puis, c'est la première chose que j'ai voulu illustrer dans le livre, c'est justement redécouvrir le Québec. Donc, par exemple, l'île d'Orléans est un must. C'est un de nos joyaux au Québec. Il y a aussi des endroits où on peut être totalement dépaysé, que je pense en Montérégie, le long du chemin Covey Hill, où c'était les loyalistes se sont installés après la guerre d'indépendance américaine. On est totalement dépaysé avec une architecture un peu britannique, c'est fantastique. Il y a plusieurs endroits de même, mais aussi quand on va à l'étranger, c'est une bonne façon de découvrir la culture locale.
Moi, justement, pendant de l'étranger, j'avais fait des voyages à l'extérieur également. Alors, est-ce que vous nous en parlez quelque peu, justement?
Oui. Dans le fond, pour le 10e anniversaire de rencontre avec ma compagne, j'ai eu la chance de planifier un voyage en Hollande, où on a loué, par exemple, des vélos et on est allé découvrir la campagne hollandaise. C'était une boucle de 25 kilomètres, qui peut sembler énorme, mais qui fait bien au courant d'une journée complète. Puis on a eu la chance d'aller visiter un voyage de pêcheurs sur le bord de l'eau, aller dîner, faire un pique-nique, revenir par la campagne au coucher de soleil. C'est le genre de choses qu'on pourrait aller simplement visiter les mêmes endroits, mais on a eu la chance d'aller voir comment les locaux vivaient, fréquenter les mêmes restaurants. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre si on reste dans le centre-ville. Donc, c'était une belle opportunité qu'on a eue. Sinon, j'ai eu aussi la chance d'aller visiter la Suède, de traverser la Suède en vélo l'été dernier, pendant le mid-summer. Ça, c'est la période de l'année où il fait clair 24 heures sur 24. Puis, encore une fois, c'est incroyable la chance qu'on a de pouvoir pédaler à travers un pays. Cette fois-là, j'ai décidé de traverser en quelques jours le pays. Puis j'arrêtais dans des petits villages, dans des hôtels historiques. J'ai pu manger des choses qu'on ne retrouve pas justement dans les grandes villes qui sont très locales. Donc, c'est vraiment redécouvrir un pays d'une autre façon.
Est-ce que ça a pris du temps à visiter la Suède?
La Suède, personnellement, je l'ai faite en 4 jours, mais je recommanderais de le faire en 1 à 2 semaines.
Y a-t-il une destination que vous a marqué particulièrement?
Il y a une destination que j'ai trouvée vraiment impressionnante, c'est la Californie. Quand j'étais en Californie il y a 2 ans, j'ai eu la chance de tomber sur les chemins de calèche. Dans le fond, c'est les chemins qui étaient empruntés par les chevaux pour monter en arrière du mont Hollywood. Puis je suis allé en vélo dans ces chemins-là, puis j'ai eu la chance d'aller en arrière de la pancarte observer Los Angeles vue de haut derrière la pancarte Hollywood. C'est vraiment une occasion que à pied ça aurait été difficile à faire, c'est impossible à faire en auto, donc c'est vraiment une opportunité qui est débloquée grâce au vélo.
Alors, un voyageur hors de l'ordinaire. Avant de terminer, prenez le temps de nous donner quelques conseils, parce que il y a tellement de marques et de sortes de bicyclettes. Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet-là?
Moi, je dirais d'aller en magasin de vélo, dans une boutique de vélo, et de demander, basé sur votre objectif de kilométrage, de demander la bicyclette qui va vous convenir le mieux, mais aussi vous assurer d'être confortable sur votre bicyclette. Parce qu'il y a plusieurs types de vélos pour plusieurs types de pratiques, et l'objectif qu'on fait du vélo, c'est d'être le plus confortable possible pour ne pas avoir une mauvaise expérience. C'est via le confort qu'on décide de pédaler plus longtemps, plus haut, plus rapidement. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller pour le confort avant tout.
À somme toute, qu'est-ce que vous retenez de toute votre expérience?
Je retiens que tout a parti du fait de ne plus vouloir être dans le trafic en allant au bureau, puis ça finit à visiter plus de 15 pays, à faire plus de 60 000 kilomètres en 10 ans. Donc, non, c'est grosso modo, c'est une expérience qui était inattendue, puis qui, comme vous l'avez dit plus tôt, est un peu extraordinaire, mais pris à chaque moment, c'était une expérience un peu banale, je dirais. Le gars ordinaire qui pousse dans les pédales, quoi.
Félicitations pour toutes ces performances et ces exploits. Également d'avoir écrit ce beau livre également. Alors, pour plus d'informations, pour compléter cette entrevue, qu'est-ce que vous diriez?
Je vous invite à visiter mon site sur deroux.org pour en savoir plus sur le vélo en général, mais et en savoir plus sur le livre. J'ai un article sur mon blog qui explique quel est le livre, puis je vous invite à l'emprunter soit à votre bibliothèque municipale ou à aller voir votre libraire afin de vous le procurer.
Alors Jean-Philippe Guay, qui est un écrivain et auteur de Pédaler, alors merci beaucoup de cette entrevue, puis qui nous donne un bon conseil pour la saison estivale. À la prochaine.
Merci à vous.
Au revoir. Et maintenant, c'est une visite plus précisément avec Oregon et Washington, dégustation de vin, mais vous parlez de cette région un petit peu, en compagnie de Raymond Nantel, de Nantel et Associés, qui élabore justement cette présentation depuis plusieurs années, depuis 2011 d'ailleurs, qui s'implique beaucoup dans le milieu vinicole et autres, alors que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour Raymond Nantel.
Bonjour à vous, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même?
Oui, oui, en pleine forme aujourd'hui, une belle journée, on a de l'activité, beaucoup de visiteurs, beaucoup d'intérêt pour les régions de l'État de Washington sur la côte ouest et de l'État d'Oregon qui est juste en dessous. Donc, ce sont des régions un peu moins connues que la Californie qui ont l'intérêt d'amener de la découverte.
Justement, quand on parle d'Oregon et Washington, de plus en plus, on sent qu'ils sont du côté vinicole impliqués davantage.
Oui, absolument. Et donc, il y a 5 régions principalement aux États-Unis qui produisent du vin sur une base commerciale. Donc, la première région, c'est la Californie, mais la deuxième, c'est l'État de Washington, suivi de l'État d'Oregon. Et ensuite de ça, on parle plutôt de l'État de New York et suivi de la Virginie. Donc, Washington est quand même en deuxième position en termes de volume et d'importance. Et il y a plus de 1000 wineries incroyable. Installées dans l'État de Washington. Mm-hmm. Donc, on offre quelque chose de différent. C'est juste donc au sud de la Colombie-Britannique et en grande partie désertique. Donc, on a des vins qui ont un style complètement différent de ce qu'on voit en Californie.
Mm-hmm. Alors, on parle d'Oregon et de Washington. Alors, vous connaissez quel des deux le plus?
En fait, je connais un peu plus la région de Washington, mais bon, je connais bien également l'Oregon, qui est un climat complètement différent, qui est beaucoup plus océanique et où on trouve des pinots noirs de grande qualité. C'est après la Bourgogne en France, je vous dirais, la deuxième région de production de pinots noirs. C'est une région qui a fait ses preuves depuis plus de 50 ans, qui a été vraiment... si vous voulez, significative sur, au niveau de la production des vins dans les années 70. Donc, beaucoup de gens sont allés s'installer dans cette région et le Pinot Noir était le cépage de prédilection, le cépage qui semblait être le plus prometteur. Donc, aujourd'hui, quand on dit Oregon, on pense Pinot Noir, bien sûr.
Et quand on parle de Washington, là, vous dites 1100 vignerons quand même. Là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y en est justement à produire dans cette région?
La région de Washington a la qualité de son défaut, c'est-à-dire qu'elle fait tout bien. On peut, dans certaines régions, on fait certains cépages de meilleure façon que d'autres, alors qu'à Washington, évidemment, l'État est vaste, on parvient à faire de la qualité dans presque tous les cépages. Donc, on retrouve beaucoup de Riesling, de Chardonnay, qui sont très bien, également des Cabernet Sauvignon, des Merlot. Les Merlot de Washington sont très connus pour leur puissance. Donc, on a un climat qui est différent, qui amène autre chose, et c'est une région qui a la même latitude que Bordeaux. Mm-hmm. Donc, et le même niveau, en fait, un niveau supérieur d'ensoleillement. Donc, évidemment, avec les sols, la variété de sols qu'on a là, suite à toutes les activités volcaniques du dernier millénaire, je dirais, on trouve une variété de sols extrêmement importante. Donc, on réussit à faire des choses vraiment étonnantes.
Puis, vous parlez de Pinot principalement. Est-ce que d'autres marques intéressantes également?
En fait, le Pinot, donc, est beaucoup plus associé à l'Oregon. En ce qui a trait à l'État de Washington, c'est ce que je vous disais, donc on retrouve d'excellents vins faits de plusieurs types de cépages.
Mais quand on parle des cépages, là, quelle sorte de cépages?
Bon, quand on dit cépage, c'est un peu comme quand on parle des pommes, on dit les McIntosh ou les Lobos. Quand on parle de cépage, on parle de raisin. Quand on parle de raisin, on parle de type de raisin. Donc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling, tout ça, ce sont des types de raisins. Donc, qu'on appelle les cépages. Donc, les cépages, les raisins qui ont du succès dans l'État de Washington, c'est surtout les Merlot, les Chardonnay, les Sauvignons blancs, les Cabernet Sauvignon. Tout est viable dans l'État de Washington. On parvient à produire toutes ces variétés avec de la qualité à cause de la variété des sols. Donc, ce n'est pas une région à monocépage où on a surtout un cépage. Il y a plusieurs cépages qui ont du succès.
Intéressant. Et du côté du Québec et du Canada, est-ce que ça ramène justement plus de vins américains?
On développe le marché. Évidemment, ce sont des vins qui sont pas du tout aussi connus que certains vins comme par exemple de la Californie. La Californie, c'est un peu le grand frère quand on parle de la région des vins aux États-Unis. Mais Washington a sa propre personnalité, a sa façon d'être, sa façon de faire, son climat, son style. Et les ventes sont en croissance. Les gens s'y intéressent. Plus les gens connaissent le vin, plus les gens s'intéressent à différentes régions. Et Washington, donc déjà souvent les gens disent « Attendez, Washington, c'est pas là où il y a la Maison-Blanche ». Oui, c'est bien là où il y a la Maison-Blanche, mais quand on parle de l'État de Washington, on parle d'un État qui est sur la côte ouest et juste dessous la Colombie-Britannique du côté américain et juste au sud de l'État de Washington, il y a l'État d'Oregon. Donc, on parle d'un État qui est assez éloigné et si on continue après l'Oregon, on se retrouve en Californie. Donc, on parle des vins de la côte ouest, mais avec le style qui est particulier à chacun des États.
Intéressant. Vous avez un message, Raymond, à lancer dans les circonstances. Qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais aux gens, n'ayez pas peur d'expérimenter. Parlez à vos conseillers en vin en magasin. Instruisez-vous sur les vins de Washington, sur les vins d'Oregon. La découverte, c'est vraiment plaisant. Et quand on est bien guidé, les risques de tomber sur une mauvaise bouteille sont vraiment pas très forts. Les gens de la SAQ, ils sont bons, ils connaissent leur truc. Posez-leur des questions. Voilà ce que je suggère.
Et pour plus d'informations?
Bien, pour plus d'informations, vous pouvez aller en ligne sur les différents sites, parce qu'il y a de nombreux sites concernant les vins de l'État de Washington. Donc, en passant à travers Google ou un moteur de recherche de ce genre-là, vous allez trouver beaucoup d'informations et beaucoup de photos spectaculaires, parce que c'est une région qui, visuellement, est très spectaculaire.
Alors, merci beaucoup, Raymond Nantel, de Nantel et Associés, qui nous a fait connaître justement ces bons vins d'Oregon et de Washington et davantage les apprécier pour ceux qui sont amateurs, évidemment. À la prochaine et merci beaucoup.
Merci à tous et bonne dégustation.
Et voilà qui termine, chers auditeurs, cette émission Et voilà qui termine, chers internautes, cette émission Voyage Voyage sur votre site préféré radio, internet, fidèle. Et voilà qui termine, chers auditrices et auditeurs, cette émission Voyage Voyage sur les ondes de votre site préféré fidèleauposte.com. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou suggestions, il me fera plaisir de les recevoir au courriel suivant, André Bouchard 84, @commercial.gmail.com. Là-dessus, il ne me reste à que vous souhaiter une bonne semaine et à la prochaine.